Every day, anywhere, anytime, the Digital Gasbull Channel, Ebenezer International, your station.
Nous vous proposons d'écouter Pastopod, l'émission de tous les pasteurs sur la RCEI, la radio qui vient vers vous pour vous servir.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs bonjour. De nos jours, grâce aux nouvelles technologies, la grande soif intellectuelle qui a toujours été l'une des caractéristiques de l'être humain, pour ne pas dire une sorte de souffrance, trouve petit à petit sa satisfaction. Néanmoins, en dépit de cette abondance d'informations qu'il trouve sur le net, il y a des gens que l'on connaît très peu ou pas du tout. En dépit de leur engagement pour la transformation des vies et surtout malgré l'évidence de leurs témoignages ô combien percutants. Bien imbu de cette réalité, la radio chrétienne Ebenezer International a lancé le programme Pastopod, dont le but principal est d'aller auprès des pasteurs pour vous faire lire quelques-unes des édifiantes pages de leur histoire. Je suis Franck Doristil, votre ami podcasteur, qui vous parle depuis son home studio, basé en France métropolitaine, dans le Val d'Oise. Vous êtes sur la radio chrétienne Ebenezer International à l'heure de Pastopod, juste avant d'accueillir nos invités, le pasteur Marc Cheny et son collaborateur Cédric Young. Je vous propose ce très beau chant de l'artiste chrétien Olivier Choix intitulé « Persévère », morceau que je dédie à tous nos frères et sœurs, tous les auditeurs à l'écoute en Suisse et plus particulièrement de la ville de Chur, d'où viennent nos intervenants. Bonne écoute à toutes et à tous.
Everyday, anywhere, anytime. The Digital Gasper Journal.
Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère, oh oh. choses arrivent quand il ordonne. Elle existe, son regard est sur ce qui lui appartient.
Pastopod, l'émission de tous les pasteurs sur la RCEI. Grand merci à l'artiste Olivier Choua pour ce chant dans lequel il nous encourage à faire confiance à notre Dieu qui tient toujours ses promesses. C'est le moment maintenant d'accueillir nos invités et commençons tout d'abord par le pasteur Marc Cheny qui va se présenter.
Alors, mon nom c'est Marc Cheny et je suis né dans le village court où j'exerce aujourd'hui un ministère. Si mon nom est germanique, je suis né dans un village francophone et donc l'allemand n'est pas du tout ma langue maternelle. Et en Suisse comme en Belgique, pour savoir la langue maternelle de quelqu'un, il ne faut pas se guider d'après le nom de famille parce qu'on a une chance sur deux de se tromper. Et donc je n'ai pas toujours vécu dans mon village. J'ai fait des études à l'extérieur, au Canada, en France, à Strasbourg, en Suisse, à Lausanne. Et j'ai aussi exercé un ministère d'enseignement théologique en faculté pendant 12 ans au Liban. Donc, et c'est ensuite depuis le Liban que je suis revenu dans mon village natal pour exercer là un ministère de pasteur de l'église locale.
D'accord, merci. Vous êtes originaire de la Suisse, un pays dont on parle souvent quand il s'agit de la précision dans les rendez-vous, tout ça, et rarement quand il s'agit de grosses fortunes. Mais beaucoup de gens ignorent la place qu'occupe la foi dans le paysage suisse. Pourriez-vous nous en parler un peu? Oui.
Alors, la foi, c'est en grande partie une longue histoire. Il y a eu en Suisse une grande influence de la réforme, même si c'est dans à peu près la moitié du pays qu'il y a eu la réforme ou qu'elle s'est pérennisée, parce qu'il y a aussi eu, comme dans d'autres pays d'Europe, des régions où il y a eu la réforme et ensuite les efforts pour regagner les gens à la foi dite catholique. Ont été assez couronnés de succès. Il n'y a presque plus eu de protestants dans certaines régions de Suisse. Mais c'est un peu la même histoire que l'Allemagne et l'Autriche. C'est-à-dire, par rapport à l'Allemagne, c'est un peu la même chose. Il y a des régions où la réforme s'est implantée et d'autres où elle ne s'est pas implantée. Dans les régions où la réforme s'est implantée, ça n'a jamais été la version luthérienne, mais toujours la version... En gros, Zwingli Calvin, qu'on appelle, qui est aujourd'hui la confession réformée. Oui. D'ailleurs, Calvin a exercé son ministère à Genève, qui à l'époque n'était pas vraiment considéré comme faisant partie de la Suisse, mais aujourd'hui elle en fait partie, bien sûr. Zwingli a fait sa réforme à Zurich, qui était déjà à l'époque un canton suisse. Et il y a eu là une grande influence, une foi authentique chez certains, chez d'autres c'était du suivisme, parce qu'il faut quand même dire que la réforme de Zwingli, de Calvin ou d'autres essayait d'englober toute une population et certains suivaient parce qu'ils étaient bien obligés. Ce n'était pas toujours une foi authentique. Il y a aussi eu la foi, alors, bien plus personnelle et engagée de ce qu'on appelait les anabaptistes, qui ont été persécutés, malheureusement, autant et parfois même plus par les réformés que par les catholiques. Et beaucoup des mennonites de par le monde ont une origine suisse, mais pas tous. Il y en a aussi qui sont de par le monde et qui ont une origine néerlandaise. Mais si aujourd'hui il y a des mennonites de par le monde, quelque part il y a une origine généralement suisse, allemande du sud ou néerlandaise. Avec le temps, eh bien, il y a eu des réveils. Il y a eu des mouvements de piétisme et de réveil, notamment pendant tout le 19e siècle, autant dans les régions parlant allemand que dans les régions parlant français. Mais dans les régions parlant français, il y a eu tout le réveil de Genève pendant la première moitié du 19e siècle, qui s'est étendu à d'autres cantons que Genève, notamment le canton de Vaud. D'accord. Et qui a donné existence à de nouvelles églises libres, si on veut, séparés de l'État, église de professants, où on entre uniquement sur profession de sa foi, mais aussi sur des mouvements de renouveau dans les églises majoritaires, historiques, réformées, des deux côtés. Aujourd'hui, il y a toujours un assez grand nombre de ce qu'on appelle la mouvance évangélique, qui sont soit dans les églises réformées, soit formant des églises de professants. En même temps, ce n'est pas aujourd'hui qu'on enregistrera, sauf rares exceptions, des dizaines et des centaines de conversions en peu de temps. On pourrait dire que la majorité de la population qui n'est pas évangélique est soit blasée, si elle connaît les évangéliques depuis longtemps, soit négative peut-être, soit tout simplement blasée. Soit alors, pour une partie de la population, de plus en plus, elle est ignorante même de ce qu'est le catholicisme, le protestantisme ou l'évangélisme, sauf quelques clichés des médias, parce que c'est vrai que de moins en moins, il y a une partie de plus en plus petite de la population qui est catéchisée.
D'accord. Voilà. Comment répartissez-vous la population des chrétiens ou bien des croyants en Suisse? Quel pourcentage de chrétiens approximativement comptez-vous en Suisse?
Alors tout dépend ce qu'on entend par chrétien. Si c'est ceux qui se déclarent chrétiens dans des sondages et qui ne sont donc ni sans religion, ni musulmans, ni hindous, ni bouddhistes, ni juifs, mais qui, dans un sondage, se déclarent chrétiens, ça peut quand même faire, je n'ai pas de statistiques précises, mais je pense au moins 75 à 80% de la population.
Quand même.
Peut-être les régions urbaines, c'est moins, parce que la part des sans-religion augmente dans les régions urbaines. Maintenant, ceux qui sont en plus engagés, certains disent pratiquants, je ne dis pas forcément qu'ils vont à l'église tous les dimanches, mais ils y vont plusieurs fois dans l'année et ils s'engagent dans du bénévolat peut-être de laïque et ils ont une foi, ils y croient vraiment. Je dirais que c'est difficile de donner des chiffres, mais c'est quelque part entre, je ne sais pas, ça fait moins de 25%, mais ça fait plus que 10%. Ensuite, parmi ceux qui sont vraiment engagés, ceux qui ont des croyances qu'on pourrait caractériser comme de la mouvance évangélique, je ne sais pas si c'est 5% ou un peu moins de la population, quelque chose comme ça.
Voilà. D'accord. Dans quelle ville est basée votre assemblée? C'est dans la ville de Cour.
De Cour, oui.
Vous êtes originaire de Cour et votre église également se trouve à Cour. Depuis quand a commencé votre ministère dans cette ville?
Alors, c'est il y a 9 ans, c'était en 2006. Et je revenais du Liban, et je revenais dans mon village natal, et l'église avait été quelques années sans pasteur, et elle a fait appel à moi. Donc ça fait 9 ans que j'y suis, et depuis d'ailleurs, un second pasteur s'est joint à moi, nous sommes une équipe de deux pasteurs. Et mon collègue s'appelle Cédric Young et nous partageons le ministère à deux, nous l'exerçons en tandem et c'est une expérience formidable. Il y a pas mal de besoins parce que l'Église étant plurigénérationnelle, elle existe depuis plus de 100 ans, il y a bien sûr les membres actuels qu'il s'agit de nourrir spirituellement, de stimuler dans la foi, d'organiser aussi leur engagement bénévole. Il y a beaucoup de bénévolat. Et puis, il y a aussi les personnes qui peut-être, sans être vraiment engagées, se considèrent comme baptistes, mettront sur un sondage ou sur certains documents questionnaires officiels, on demande la profession, ils mettront baptiste parce que leurs parents étaient baptistes. Et évidemment, ces personnes-là, même si nous avons un ministère moins intense auprès d'elles, eh bien, elles vont faire appel à nous, c'est sûr, s'il y a un décès dans la famille, par exemple.
Je rappelle à nos auditeurs qui sont sur la radio chrétienne Ebenezer International à l'heure d'une émission spéciale Pastopod, rubrique consacrée au ministère des pasteurs qui veulent nous faire découvrir leur témoignage et leur parcours avec le Seigneur Jésus-Christ. Notre invité spécial est bien le pasteur Marc Cheny, mais qui est accompagné de notre collègue qui va se présenter. Bonjour, bien-aimé.
Voilà, bonjour. Moi, je m'appelle Cédric Young. Alors, Marc Cheny m'a mentionné il y a un instant. Cela fait 4 ans maintenant que nous travaillons en équipe et comme il l'a dit aussi, c'est une joie pour moi de découvrir le ministère pastoral en sa compagnie. C'est pour moi une nouveauté dans mon parcours et je suis très reconnaissant de pouvoir vraiment fonctionner en équipe comme cela. C'est vraiment un privilège qui m'est fait. Alors moi-même, je ne suis pas natif de Suisse, je suis originaire de France. Alors je découvre et je continue à découvrir encore de nombreux aspects du monde religieux en Suisse. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir pour moi d'être accueilli dans ce pays et de m'y investir.
Les questions vont se poser de façon alternative, tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Ma prochaine question, c'est concernant le paysage évangélique suisse. Alors, vous nous avez parlé des différentes confessions religieuses qu'on peut rencontrer. Alors, quel genre de relation existe-t-il entre ces différentes églises qui ont parfois de légères différences au point de vue doctrinal?
Alors, aujourd'hui, l'œcuménisme a bien avancé. Entre réformés et catholiques, il y a souvent de bonnes relations. Je dirais même que, d'après les échos que j'ai, entre réformés et catholiques, on voudrait aller en Suisse, parfois plus vite que la musique au niveau de la base, c'est-à-dire la musique qui viendrait des instances officielles et qui dicte le rythme plus lent. Mais voilà, ça c'est la relation entre réformés et catholiques. Les évangéliques, pendant longtemps, ont été beaucoup plus retiré de ce processus, beaucoup plus méfiant, parfois pour des raisons profondes de définition de la foi, qu'est-ce que nous croyons vraiment. Le fait que dans des églises, surtout réformées, il y a eu une influence de l'esprit de la modernité, de l'esprit des Lumières qui a fait parfois modifier la manière dont nous comprenons la Bible et même d'essayer de redéfinir parfois assez radicalement ce que nous croyons et de ne pas en s'écartant parfois de la révélation biblique. Il y a aussi eu évidemment, alors de façon beaucoup plus forte, une méfiance des évangéliques vis-à-vis de l'Église catholique qui vient de convictions qui datent de la Réforme. Aujourd'hui, c'est un peu plus complexe. D'un côté, nous nous rendons compte que tout le monde n'a pas une foi personnelle dans le Seigneur, qu'il y a encore, surtout en Suisse, une part de croyance qui veut que la foi, c'est le fait d'être né dans une famille chrétienne. Ici, on n'a pas totalement refusé, on a la foi. Et c'est cette notion de la foi qui viendrait des parents uniquement que les ancêtres des évangéliques ont combattu en leur temps, en commençant par les anabaptistes du XVIe siècle. Et d'un autre côté, nous nous rendons compte qu'il y a une foi volontaire et profonde et authentique bien au-delà du monde évangélique, et de plus en plus d'évangéliques s'en rendent compte et sont beaucoup plus ouverts à discuter avec des réformés et des catholiques, se rendre compte qu'ils partagent en fait la même foi. Voilà, ça va un peu dans les deux sens.
Je m'adresse maintenant au pasteur Jung, c'est Paul ?
C'est Cédric.
Cédric Jung. Alors, pasteur, vous n'ignorez pas que les médias occupent une place importante dans la propagation de l'évangile. Qu'en est-il des radios et des stations télé en Suisse? Est-ce que vous comptez beaucoup de stations chrétiennes dans le paysage suisse?
Alors, ma connaissance ne se réduit malheureusement qu'au monde suisse francophone, mais dans tout le monde germanophone, donc qui parle allemand dans la Suisse, je ne connais pas du tout ce qui se passe. Dans le monde francophone en tout cas, je peux constater l'existence d'une chaîne de télévision qui s'appelle Canal Alpha et qui réalise, qui est de confession chrétienne, qui a à cœur de présenter la foi sous différents aspects et qui effectue plusieurs émissions qui diffusent sur Internet, sur différents relais. Alors voilà, c'est un exemple que j'ai en tête, mais malheureusement, je n'ai pas de connaissance exhaustive de tout ce qui se fait en Suisse romande. Peut-être y a-t-il d'autres éléments là, mais voilà.
Alors pour l'instant, il n'y a pas de médias chrétiens ou bien semi-chrétiens même qui permet aux pasteurs qui veulent faire partager un message, un témoignage, d'avoir quelques minutes d'antenne, même par mois ou par an, pour faire ce travail, non?
Assez peu. Il faut dire que le paysage médiatique en Suisse, il est encore très fortement régulé pour des raisons qui ont trait tout simplement à la diversité linguistique de la Suisse, pour que la Suisse ne soit pas livrée aux lois du marché qui ferait que presque tout serait en allemand, vu que c'est la langue majoritaire, eh bien l'État fédéral régule très précisément l'octroi de concessions à des radios ou télévisions privées. Les médias privés, en gros, il y a les médias publics, radio et télévision, qui couvrent tout le pays et qui ont obligation, au-delà de tout critère de rentabilité, rentable ou pas, ils ont obligation de diffuser dans les quatre langues nationales. En même temps, les médias privés, c'est très restreint, c'est en gros, pour ce qui est de la télé, une télé par région. Chez nous, notre région du pays, un peu vers le nord-ouest, mais francophone, on appelle ça l'arc jurassien. Il se trouve que c'est Canal Alpha. Pourquoi? Parce que Canal Alpha est d'inspiration chrétienne, et ils ne l'ont pas caché. En même temps, c'est une télévision qui fait aussi dans la culture générale, qui se veut généraliste. Et ils ont présenté un excellent dossier au niveau de la télé généraliste. Ils ont regardé la qualité des autorités fédérales pour les choisir.
Le frère Jung, Cédric, je te vois très jeune, je ne sais pas si je me trompe, parce qu'il y a des gens qui apparaissent très jeunes, pourtant Dieu leur donne, je ne sais pas, de cacher l'âge dans leur jeunesse même, et c'est peut-être une façon de leur dire, voilà, je t'accorderai 15 années supplémentaires comme il a fait pour le roi, et comme Ézéchias, c'est ça. Donc, frère... comment as-tu rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu es marié? Tu as des enfants? Et puis voilà, comment tu as découvert la foi chrétienne?
Alors pour ma part, oui, j'ai donc 36 ans. Alors je ne sais pas si mes traits le cachent ou bien le montrent de façon évidente. Je suis marié depuis bientôt 15 ans et j'ai également 4 enfants. Alors nous remercions Dieu pour cette famille que nous formons. Et puis j'ai connu le Seigneur assez tôt dans ma vie. J'ai eu le privilège de voir d'autres modèles de personnes de foi autour de moi, mes parents, de voir d'autres personnes dans une église dans laquelle j'ai grandi aussi. Alors, ma découverte de Dieu s'est faite vraiment durant mon enfance. Et puis, arrivé juste avant l'adolescence, j'ai fait le pas de demander le baptême, parce que je pense que j'avais rencontré le Seigneur déjà dans ma vie, je voulais le suivre. Et puis ensuite, c'est plutôt là que ça s'est compliqué dans ma vie, ensuite au moment de l'adolescence, où d'autres choses sont venues me tenter, m'éloigner un peu du Seigneur. Et puis, grâce à un ami qui m'a côtoyé pendant quelques années de ma vie, entre 16, 18, 20 ans, un ami qui avait à cœur d'être ancré dans le Seigneur, et bien là, j'ai pu retrouver, si on veut, revenir vers le Père qui m'attendait, bien sûr, dans toutes ces années, mais vivre une sorte de second engagement dans la foi, de façon beaucoup plus résolue que l'avait été le premier pas.
Et ta présence dans le ministère, qu'est-ce qui explique le fait que tu es maintenant pasteur au lieu d'être soit un médecin ou, je ne sais pas, un architecte ou quelque chose d'autre?
Alors, pourquoi
le pastorat?
Alors pourquoi le pastorat? J'ai été informaticien pendant une dizaine d'années. Et puis au cours de ces 10 ans, c'est assez récent, c'est en 2006, ça fait moins de 10 ans maintenant, plusieurs éléments m'ont aiguillé vers est-ce que tu ne devrais pas envisager de servir le Seigneur à plein temps. Plusieurs personnes m'ont exprimé qu'ils repéraient en moi des dons pour le ministère. Alors cela m'a fait réfléchir. Et puis un jour, un appel très clair est venu d'un serviteur de Dieu qui exposait le besoin de personnes dans le ministère. Et puis je me suis dit, mais ça, c'est pour moi. Et maintenant, je veux aller dans cette direction. Et puis, alors ça n'a pas été du jour au lendemain simple, aussi pour mon épouse. On était déjà mariés. Et elle imaginait un autre style de vie que celui de m'accompagner dans le ministère. Mais le Seigneur a fait aussi son chemin dans son cœur, et vraiment je remercie Dieu pour la façon dont il a tout guidé. Et puis ensuite, dans ces quelques années-là, je me suis formé pour me préparer pour le ministère à plein temps. Et voilà, c'est seulement depuis maintenant 2011 que j'ai pu effectuer un stage et puis ensuite devenir pasteur.
Amen. Merci pour cette belle ouverture sur ton ministère. Chaque personne n'a pas reçu le Seigneur ou le rencontré de la même façon. Quant à vous, frère Marc Cheny, comment s'était passée cette rencontre avec Jésus-Christ?
Alors, il se trouve que moi aussi, je suis né dans une famille chrétienne, que j'ai eu l'enseignement basé sur l'Évangile depuis ma petite enfance. Je me suis intéressé à la Bible très tôt, en fait. Je savais quand même lire, mais une fois que je savais lire, je me suis très vite intéressé à la Bible. Et je ne peux pas dire qu'à un moment précis, j'ai rencontré le Seigneur, mais sur plusieurs années, dans la préadolescence, je me suis posé des questions, mais où j'en suis dans ma relation avec le Seigneur? J'avais des questions, des doutes, et à un moment donné, ça s'est cristallisé. J'étais à l'adolescence. J'ai fait le choix d'être, j'ai fait le choix d'être disciple du Seigneur, en sachant que par moi-même, mais je ne suis pas du tout fidèle, je ne peux rien faire de bien pour le Seigneur, mais que lui me tenait par la main et que je pouvais m'engager. Et suite à cela, j'ai demandé le baptême et j'ai été baptisé à l'âge de 16 ans. Ensuite, il y a eu encore des périodes où peut-être que je me laissais tenter par différentes influences qui ne sont pas forcément celles de la foi, ou alors je me posais des questions. Je me suis, à plusieurs périodes de ma vie, reposé des questions. Est-ce que tout cela est vrai? Mais à chaque fois, je suis revenu au fil rouge du message de l'Évangile. Et ça a plutôt, grâce au Seigneur, cela a plutôt approfondi ma compréhension de ce message.
Et qu'est-ce qui t'a conduit dans le ministère? Est-ce la continuité de ta conversion? Ou bien il y a eu un moment où tu as reçu un appel, quelqu'un t'a dit, comme c'était le cas de Cédric, que voilà, il sent que le Seigneur t'a appelé pour un travail à l'église ou, voilà.
Alors j'ai pris une décision beaucoup plus jeune, mais ce n'était pas une décision très claire non plus. J'ai ressenti que j'étais appelé par le Seigneur à le servir d'une manière ou d'une autre. Et au moment de faire le choix des études, après le bac, j'ai choisi les études de théologie. C'était peut-être un peu dangereux dans la mesure où j'étais pas du tout sûr du type de ministère auquel je serais appelé. Et du coup, je n'avais pas de formation professionnelle autre que cela. J'ai fait une première formation au Canada d'ailleurs. Un séminaire baptiste. Ensuite, je suis revenu dans mon église d'origine pour faire un stage d'abord et ensuite exercer un ministère de pasteur assistant, mais qui ne disait pas son nom parce que ce n'était jamais mon titre officiel. J'étais en attente de savoir ce que le Seigneur voulait pour moi. Je m'intéressais aussi à approfondir la foi par des études de théologie plus poussées. Finalement, j'ai pris cette voie-là. Je suis allé jusqu'au doctorat en théologie. Une fois que j'avais le doctorat, j'ai enseigné pendant 12 ans, mais pas en Suisse, au Liban. J'ai fait une expérience interculturelle là très riche. Et j'ai enseigné la théologie protestante. Et ensuite, bon, enfin, les dernières années où j'enseignais la théologie, j'ai ressenti le besoin de m'ancrer sur la vie d'église, sur le ministère varié qu'on peut avoir, et pas seulement sur la théologie, non pas pour abandonner la théologie, mais pour ancrer la théologie dans le vécu quotidien. Parce que les deux, c'est pas contradictoire, la théologie et une foi vécue au quotidien par une communauté, une église. Et c'est là que j'ai pris l'orientation, j'ai été conduit à cette orientation pasteur d'une église.
Une très riche expérience. Oui. Hein. Au Liban, vous avez parlé la langue libanaise, c'est l'arabe, c'est ça?
J'étais dans un environnement anglophone. La faculté où j'enseignais a comme langue d'usage, langue d'enseignement, l'anglais, parce que les étudiants ne sont pas tous de langue maternelle arabe. Il y en a aussi d'ailleurs d'Afrique anglophone, moins aujourd'hui qu'un temps, et d'Iran par exemple, ou de République d'Arménie. En République d'Arménie, on ne parle pas l'arabe, alors que les Arméniens, il y en a beaucoup en Syrie et au Liban. En Syrie et au Liban, bien sûr qu'ils parlent l'arabe. Bon, nous avions aussi des étudiants arméniens d'Arménie, République d'Arménie.
Merci. Pour passer à la deuxième partie de notre émission, nous allons prendre une pause en invitant l'artiste suisse Philippe Decourou de nous interpréter un beau morceau que je dédie à vous deux. C'est un chant intitulé « Une autre terre ». Philippe Decourou, bonne écoute à toutes et à tous.
Ebenezer International, la radio qui vient vers vous pour vous servir. The Digital Gospel Channel.
Des rêves plein la tête, pas le temps de chercher qui je suis, d'où je viens. Je cours, rien ne m'arrête. Sur le bateau de la musique, je m'engage à perpète. Je n'ai rien qu'un désir pathétique, le besoin de connaître une autre terre, un autre ciel. Pour moi, un petit univers sous le soleil. Je prends la route déterminée. Coûte que coûte, je vais trouver. Et dès 1985, bateau en perdition. Sur mon océan, tous déglinguent, c'est le temps des questions. Au fond de moi, l'appel résonne, brûlant comme un grand feu. Je saisis pas tout, mais je m'abandonne. Je découvre avec Dieu une autre terre, un autre ciel. Pour moi, un nouvel univers sous le soleil. Je chante de route, nouveau départ. Je bannis le doute et le hasard. L'automne 1995, je ne peux plus me taire. Je veux chanter, crier sans fin l'amour et la colère. Peupler le ciel, piller l'enfer. Je suis pas seul et j'avance. Chaque jour faire la guerre à la guerre. Partager la souffrance d'une autre terre, un autre ciel. Pour toi un nouvel univers sous le soleil. Je t'ouvre la route, faut décider. Bannir tes doutes et t'engager. Hiver 2000 et des poussières, je tire ma révérence. Dernier appel, dernière prière, moi j'écoute en silence. J'ai fait le mieux que j'ai pu faire, je laisse pas de regrets. Je passe le flambeau, tu es derrière, sans moi pour annoncer une autre terre, un autre ciel. Pour toi, un nouvel univers sous le soleil. Fini ma route, je pars sans toi. Je laisse pas de doute, je t'attends là-bas. Fini ma route, je pars sans toi. Je laisse pas de doute. Je t'attends là-bas. Une autre terre. Oh, une autre terre. Une autre terre. Une autre terre. Une autre terre. Un autre ciel.
L'émission de tous les pasteurs sur la RCEI.
Cédric, en t'observant dans cette pastorale, j'ai vu que le Seigneur t'a bourré de talents, comme c'est le cas du pasteur Marc. Tu es musicien aussi.
Oui, en effet, je suis musicien. J'ai appris très tôt la musique et puis je suis très heureux de pouvoir mettre ce don aussi au service de Dieu dans divers contextes. Mais c'est un privilège, un lieu où je prends beaucoup de plaisir à louer le Seigneur avec les instruments, avec la voix, avec parfois la composition, avec plusieurs éléments autour de la musique. Alors voilà, on encourage aussi la prochaine génération. J'ai beaucoup de plaisir avec mes enfants aussi à les encourager dans la musique, parce que je trouve que c'est un canal magnifique pour louer Dieu.
Mais je t'ai vu tantôt au piano avec beaucoup de professionnalisme, tantôt la basse, tantôt la guitare. Le Seigneur t'a béni avec combien d'instruments environ?
Alors, je ne sais pas, il y a encore plusieurs autres instruments derrière lesquels je me sentirais un petit peu à l'aise. Mais voilà, le nombre d'instruments importe peu. Mais j'ai eu une culture, une formation musicale théorique très, très poussée dans ma jeunesse. Et je pense que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, c'est ce qui me permet encore de pouvoir, avec une oreille, de m'adapter un peu sur tout type d'instrument de musique. Mais voilà, les instruments où je suis le plus à l'aise sont quand même le piano, la basse, la guitare, la batterie. Et puis, j'aime beaucoup chanter aussi. J'ai beaucoup reçu dans des chorales, notamment dans ma jeunesse aussi. Ça fait partie de mon parcours de foi aussi que de chanter. Chanter la gloire de Dieu au travers de chants, et ben ça nourrit la foi personnelle, et c'est vraiment mon témoignage aussi, quoi.
Le Seigneur ne nous encourage pas à faire cavalier seul, mais Avec les possibilités technologiques maintenant, soit pour Tools ou Cuba, je ne sais pas, avec tout ce que tu peux faire là, tu peux sortir une production tout seul, je pense. Tu
as alors, déjà essayé, oui, j'ai déjà fait quelques productions, mais jamais à un niveau très, très avancé. Mais en effet, aujourd'hui, avec quelques logiciels et puis un petit peu de matériel, eh bien, tout le monde peut s'improviser studio d'enregistrement. Alors, j'ai quelques expériences, mais ça prend beaucoup de temps, en fait, de s'investir, de réfléchir dans la qualité des logiciels, le type de mixage que l'on veut, l'enregistrement. Voilà, c'est un domaine où j'aimerais, si j'avais peut-être une vie en plus, m'investir là-dedans. Mais voilà, je ne le fais pas souvent.
Mais tu es d'accord avec moi que chacune de ces capacités, chacune de ces possibilités de jouer d'un instrument est un don spécial reçu du Seigneur pour lequel, je ne veux pas t'impressionner, tu le sais mieux que moi, tu auras à rendre compte un jour.
Alors en effet, oui, comme chacun des dons que Dieu fait, eh bien, il le fait pour sa gloire. Alors je suis conscient que ce don-là aussi, puisque je le reçois comme tel, eh bien, doit aussi servir pour la gloire de Dieu. Alors c'est ce que je m'efforce de faire par la grâce de Dieu. Mais, ouais.
Est-ce que tu éprouves un certain plaisir? On le fait pour la gloire de Dieu, mais nous aussi, quand notre corps, notre esprit participe à une activité, il faut éprouver un certain plaisir. Est-ce que ce plaisir, tu l'éprouves quand tu prends ta basse, ta main voyage sur la tablature de la guitare? Il y a un certain plaisir quand tu joues au piano, tes doigts. Mm-hmm. Comment peux-tu expliquer ce plaisir, cette joie de pouvoir accompagner le peuple de Dieu avec un instrument?
Alors comment je l'explique? Comme je l'ai dit, je le reçois d'un don de Dieu. Je pense que c'est Dieu qui a créé la musique. Et puis on n'en connaît qu'une toute petite partie sûrement de la musique de Dieu. En tout cas, voilà, le plaisir que je le ressens vraiment comme un plaisir accordé par Dieu. Et puis ça, c'est très très clair, très très clair. Très clair pour moi. Le danger qui est associé à tout musicien, c'est de s'attribuer une gloire ensuite qui ne lui revient pas, et puis de vouloir jouer pour dire « Ah, mais qu'est-ce qu'il joue bien ?» Et puis voilà, il y a toujours ce danger-là pour tout musicien ou même pour toute personne qui est mise en avant à un moment ou à un autre. Eh bien, je crois qu'il y a toujours cette tentation de vouloir attribuer ou garder une partie de cette gloire pour nous-mêmes, et pourtant à Dieu seul soit la gloire.
Que le Seigneur t'aide à aller dans ce même chemin, sur cette même direction, parce que je sais que la musique occupe une place importante dans les cultes d'adoration, la louange, et ça, il faut que tout le monde le sache. Merci, pasteur Cédric, pour cette ouverture. Nous allons maintenant nous focaliser pendant ces dernières minutes sur votre assemblée, et pour nous dire quel est le nombre de membres, combien de membres compte dans votre assemblée et comment sont repartis ces membres du point de vue sexe et âge? Pasteur Marc, tu peux nous répondre, je pense.
Alors, je n'ai pas de statistiques précises en tête. Nous sommes, dans notre église, c'est notre culture, très peu dans la statistique. Mm-hmm. Mais je peux dire qu'il y a comme membre engagé quelque chose comme 90. Il y a ensuite des personnes qui viennent peut-être même assez souvent au culte, mais qui ne sont pas inscrits comme membres. Ensuite, il y a des personnes qui, comme je l'ai déjà dit, font partie de la communauté au sens large à cause de leur histoire familiale et qui, en tout cas, nous solliciteront pour des obsèques dans la famille. Mmh. Et puis, question. Alors, je ne peux pas dire, là, ce sera un peu illusoire de donner une proportion entre hommes et femmes. C'est à peu près celle de la population, j'ai l'impression. C'est-à-dire, c'est quand même proche de 50-50. Mais pour ce qui est de la pyramide des âges, quand j'ai commencé il y a 9 ans, il y avait un grand nombre d'aînés, je veux dire octogénaires et nonagénaires. Mmh. Un assez grand nombre sont décédés. Pour dire qu'il y avait déjà plusieurs qui étaient déjà nonagénaires il y a 9 ans. Et maintenant, il y a peut-être moins, d'octogénaires et de nonagénaires. Il y a un plus grand nombre de septuagénaires, mais ça veut dire que finalement les aînés sont nombreux. Ensuite, il y a aussi un nombre important de ceux qui sont de ma génération, c'est-à-dire baby boomers, comme on dit, les... Je n'ai pas encore 60 ans, mais ceux qui ont un peu plus de 60 ans, ceux qui ont un peu moins de 60 ans comme moi, redescend jusqu'à 45 ans, c'est quand même une certaine culture générationnelle qui est la mienne. Il y en a quand même aussi un assez grand nombre. Il y a ensuite pas mal de familles avec enfants dont les parents ont en gros entre, je dirais, entre 25 et 45 ans. Et là, ça fait aussi un assez grand nombre. Il y a des jeunes adultes qui habitent dans d'autres régions de Suisse romande pour beaucoup, mais qui reviennent une, deux, trois fois par mois pour un peu nous revisiter, qui sont encore membres de l'église et qui en même temps s'engagent aussi là où ils sont quand ils sont là-bas. Et puis, il y a un petit peu un creux dans la pyramide des âges pour ce qui est de ceux qui sont vraiment ados. Si on prend ceux qui ont plus de 15 ans mais qui seraient encore adolescents, ce n'est pas là qu'il y en a le plus. Et même les pré-ados, ce n'est pas un nombre énorme. Et moins de 12 ans, là, les nombres augmentent de nouveau. Et les tout-petits, il y en a un grand nombre. Il y a pas mal de jeunes parents, donc il y a aussi beaucoup de naissances. Voilà.
Merci, pasteur. Frère Cédric, quant au programme que vous mettez à la disposition des frères et sœurs, des membres de l'Église, combien de types de programmes qu'on peut trouver, oui, en gros, en tout, pendant soit pour la semaine ou bien pour un mois, quel type de programme vous proposez aux frères et sœurs?
Alors, le programme, je dois dire, de façon juste, à mon avis, n'est pas très, très fourni. Il n'y a pas des activités tous les soirs dans l'Église, des choses qui se passent tout le temps. Les activités tournent autour du culte hebdomadaire, bien sûr, le dimanche matin. Il a lieu à 9h30 chez nous. C'est un horaire un peu local et un peu tôt, mais qui correspond à la mentalité de notre région. Alors ça, c'est le culte. Et puis en semaine, eh bien, nous avons aussi une réunion en soirée qui rassemble une proportion plus petite de la communauté, mais qui nous permet de prier ensemble, de se mettre à l'écoute d'un texte de la Bible. Et puis, une fois par mois, cette réunion a lieu dans les maisons. Alors là, dans les groupes de maisons, pour un plus petit nombre, à 8, 10 personnes, eh bien, nous partageons un thème commun aussi. Donc voilà finalement les deux points principaux de notre programme. Et au-delà de ça, bien sûr, nous avons des rencontres de jeunes, nous avons de temps en temps, nous avons des rencontres pour les aînés aussi une fois par mois. Et de temps en temps, la chorale se réunit. Et puis voilà, divers groupes comme ça. Mais l'essentiel vraiment se concentre autour du culte et de la réunion de semaine.
Nous nous approchons de la fin de notre programme. Avez-vous des projets à court et à long terme pour cette assemblée?
Nous sommes en train de réfléchir et de chercher la volonté du Seigneur pour savoir quels projets définir et lesquels sont prioritaires. Ce n'est pas encore très clair pour nous, mais nous avons cette préoccupation de ne pas simplement entretenir ce que nous faisons entre nous. C'est important d'entretenir la vie spirituelle, et pas seulement l'entretenir, la faire croître, mais de pouvoir toucher la population, et notamment toute cette partie de la population qui ne se rattache vraiment à aucune église. Il y en a quand même une part grandissante de la population. Nous n'avons pas encore trouvé à avoir des relations très poussées avec ceux qui sont peut-être des nouvelles familles qui s'établissent au village et qui ne sont pas forcément toutes ancrées dans une vie d'église ou dans une église. Mais c'est notre objectif. Dès maintenant, nous avons certains cultes auxquels nous donnons une forme différente et où nous invitons plus largement, et il y a une réponse du répondant pour ce qui est de venir à ces cultes. Donc nous essayons de voir ce que nous pouvons faire de plus. Peut-être quelque chose dans le domaine social, mais c'est une région rurale, c'est pas, les besoins sociaux ne sont pas aussi évidents et criants que dans les régions urbaines, mais certainement qu'il y a des besoins sociaux. Nous essayons de réfléchir à tout cela.
Et quel serait votre dernier mot pour conclure, frère Cédric?
Le dernier mot, ce serait de... c'est une question difficile, parce que résumer en un seul mot tout ce qu'on vient de dire, mais je pense que je pourrais dire que c'est la beauté de l'Église qui m'émerveille toujours à nouveau, de voir que eh bien, ce rassemblement de personnes si différentes, même si dans notre région les gens se ressemblent peut-être un peu plus qu'ailleurs, mais de voir des personnes vouloir avancer ensemble. Je crois que ça peut être qu'un miracle de Dieu, et c'est vraiment le plan de Dieu pour son peuple, qu'ils vivent ensemble, qu'ils forment l'Église, et c'est ça qui m'émerveille toujours.
Merci frère Cédric. Pasteur Marc, quel est ton dernier mot? Je vous vois, je tutoie, parce que tantôt je me sens très très à l'aise, tantôt un peu trop protocolaire. Donc quel serait ton dernier mot, pasteur Marc, pour terminer?
Alors, c'est peut-être ce mot que Cédric a prononcé, ensemble. Parce que le ministère pastoral, comme moi je l'envisage, comme Cédric l'envisage, et comme il est envisagé aussi par le conseil, par exemple les anciens de notre église, et l'église en général, ce n'est pas le pasteur là au-dessus et les autres, comme si c'était deux catégories totalement différentes de personnes. C'est plutôt un peuple, une communauté qui cherche à avancer ensemble et qui cherche à travailler ensemble. Alors ensuite, il y a des dons particuliers, et pour ce qui est d'apporter un enseignement approfondi, la formation que nous avons, Cédric et moi, c'est vrai qu'elle n'est pas partagée par tout le monde, et il s'agit de mettre en œuvre ce don et cette formation que nous avons pu avoir, mais ce n'est pas le pasteur qui fait tout, ou même les pasteurs qui font tout, pas non plus les pasteurs qui commandent et les autres qui ne font qu'obéir. Nous essayons dans notre prise de décision, dans notre réflexion sur ce que Dieu veut, à mettre un peu tout le monde dans le coup.
Eh bien, mes bien-aimés, je vous remercie d'avoir accepté de sacrifier votre planning pour ce rendez-vous, qui sera sans doute une grande bénédiction pour nos auditeurs. Que Dieu vous bénisse, qu'il continue à se servir de vous pour l'édification de son peuple.
Merci beaucoup, merci. Bonne continuation à votre radio Ebenezer, si j'ai bien compris, international.
Merci, au revoir.
Et voilà, avant de tourner la page, c'est le groupe Jeunesse en Mission qui va nous interpréter un morceau intitulé « Je continuerai » que je dédie à nos deux invités ainsi qu'à tous les pasteurs, prédicateurs, évangélistes qui écoutent cette émission. Que Dieu vous bénisse.
Ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix.
Ta voix, je continuerai.
l'émission de tous les pasteurs sur la RCEI. Ainsi s'achève, chers amis à l'écoute, ce nouveau numéro de Pastopod qui était consacré aux pasteurs Marc Cheny et Cédric Young, son collaborateur. C'était un agréable plaisir de passer en votre compagnie ce moment qui nous a permis d'entrer dans l'univers bien spécial de ces deux serviteurs de Dieu. Je voudrais les remercier sincèrement d'avoir accepté mon invitation et de contribuer ainsi à cette longue liste de serviteurs de Dieu, pasteurs, prédicateurs, missionnaires, évangélistes qui ont déjà déposé leur témoignage dans notre répertoire. Je prie pour que le Seigneur continue de se servir de tous les talents, tous les dons qu'il a placés entre leurs mains pour l'édification de son Église. Je voudrais également remercier nos artistes qui ont apporté également leur contribution à cette émission. Un grand merci à Olivier Chouard, le groupe Jeunesse en Mission, Philippe Decourou, Félana, qui nous apportera le dernier morceau après notre conclusion. Sans oublier la société Sephora Musique de la Vie pour son aimable autorisation. C'est grâce à elle que nous pouvons diffuser beaucoup des artistes que vous entendez dans nos émissions. Et à vous tous qui étiez branchés depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie sincèrement de votre écoute et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Pastopod. C'était pour vous servir, au micro et à la réalisation, votre ami podcasteur Franck Doristil, qui vous dit une fois de plus, merci, que le Seigneur vous bénisse et au revoir. Vous venez d'écouter Pastopod, l'émission de tous les pasteurs sur la radio chrétienne Ebenezer International, The Digital Gospel Channel, Your Station.